إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، on continue donc ce soir l'étude du premier fondement qui est la connaissance d'Allah évoqué par l'éminent savant, l'imam, le shaykh Muhammad ibn Abdil Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. On a vu la semaine dernière l'explication de la parole de l'auteur « وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودِ » et le Seigneur est celui qu'on adore. Et on a vu que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné à titre d'exemple un certain nombre d'adorations. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a ensuite exposé après cela le jugement de celui qui vous ne serait-ce qu'une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a dit que celui-ci est un mécréant et un polythéiste, en vouant ne serait-ce qu'une seule adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme sort de l'islam et devient polythéiste mécréant et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a évoqué les différentes preuves démontrant que les actes qu'il a mentionnés sont bel et bien des adorations. Et on va voir dans l'assise de ce soir, Incha'Allahu Ta'ala, trois d'entre elles qui sont l'invocation, la peur et l'espoir. Il a donc dit, rahimahullahu ta'ala, « Wa fil hadith, ad-du'a mukhul ibada » Et dans le hadith, il y a l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Les savants ont mentionné que ce hadith, en ces termes, n'est pas authentique. En effet, l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, l'a jugé comme étant faible. Mais il y a un hadith qui est très proche qu'ont rapporté les imams Ahmed, Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres, d'après Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhuma, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation c'est l'adoration. Et ce hadith a été jugé comme authentique par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous démontre donc l'importance et l'immensité de l'invocation. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il a dit « Wad dalil » est la preuve, c'est-à-dire la preuve que l'invocation est une adoration. « Wad dalil qawluhu ta'ala »« Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum »« Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin » Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer rentreront bientôt dans l'enfer humiliés. Donc ce verset, il nous prouve de plusieurs manières que l'invocation est une adoration. Premièrement, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'invoquer. Donc l'invocation est une adoration. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne qu'une chose qu'il aime. Et comme on l'a vu dans le cours précédent, l'adoration, c'est un nom qui englobe tout acte et parole apparent et caché qu'Allah aime et agrée. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne une chose, ceci nous indique quoi? Ceci nous indique que cette chose est une adoration. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé dans ce verset l'invocation adoration. En effet, il a dit « Udu'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati » Invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. C'est-à-dire qu'il a appelé l'invocation ici adoration. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala a menacé dans ce verset ceux qui refusent de l'invoquer de quoi ? Qu'ils rentreront dans l'enfer humiliés. Donc, ceci nous prouve que les gens, vis-à-vis de l'invocation, sont de trois catégories. Le premier groupe de personnes, ce sont ceux qui n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, par orgueil, ils se refusent à l'adorer, comme c'est le cas des athées qui sont mécréants. Le deuxième groupe de personnes, ce sont ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui en parallèle invoquent autre que lui. Et ceux-là sont des polythéistes. Le troisième groupe de personnes, ce sont ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et en invoquant nul autre que lui. Et ceux-là sont les muwahhidoun, les monothéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de l'invoquer. Et il nous a promis que si on l'invoquait, il répondrait à nos invocations. Et ceci fait partie de la grâce, de la miséricorde et de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos invocations. Mais c'est nous qui sommes dans le besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous a donc ordonné ce dont le profit revient à qui ? Revient à nos propres personnes. Il nous a donc ordonné de l'invoquer, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il est en colère contre ses serviteurs qui, par orgueil, se refusent de l'invoquer, subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous montre l'immense miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu ne l'invoques pas et que tu ne lui adresses pas tes demandes, si tu n'invoques pas Allah, subhanahu wa ta'ala, alors Allah, subhanahu wa ta'ala, est en colère contre toi. Alors que les créatures, lorsque tu leur demandes des choses, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'énervent, cela les dérange. Au contraire, ils aimeraient que tu ne leur adresses aucune demande. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il t'ordonne de l'invoquer et en plus de ça, il te promet qu'il va répondre à tes invocations. Donc on a vu dans le cours précédent que l'invocation est de deux catégories. L'invocation d'adoration et l'invocation de demande. On a vu que l'invocation d'adoration, elle englobe l'ensemble des œuvres pieuses. Car toute œuvre pieuse, tout acte que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en réalité une demande que tu lui adresses. Tu lui demandes en réalité de te faire entrer au paradis, de te pardonner tes péchés et de te préserver du feu de l'enfer. La deuxième catégorie, on a dit que c'est l'invocation de demande. Et ce sont toutes les demandes que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Oh Allah, préserve-moi du feu de l'enfer. Oh Allah, facilite-moi le mariage. Oh Allah, accorde-moi ma subsistance. Et toute autre demande que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu lui demandes ce qui te profite ou de te préserver de ce qui te nuit. Ceci est une invocation de demande. Donc l'invocation d'adoration, la première catégorie, elle est réservée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'avouer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du polythéisme majeur, du shirk akbar, qui fait sortir son auteur de l'islam. Comme une personne, par exemple, qui va prier, jeûner ou faire le pèlerinage pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type d'invocation, l'invocation de demande, elle se divise en deux catégories quant à elle. La première, c'est la demande d'une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Et ceci donc est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et adresser une telle demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est du shirk akbar, du polythéisme majeur, comme le fait de demander d'avoir des enfants, de demander le pardon de ses péchés, d'entrer au paradis, ou autre chose semblable que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Toutes ces demandes ne doivent être adressées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. La deuxième type de demande, ou la deuxième type d'invocation, cela concerne ce que les créatures sont capables d'accomplir. Et ceci est permis à trois conditions. C'est-à-dire qu'il t'est permis d'adresser une demande à une créature à trois conditions. La première condition, c'est qu'il soit vivant. Donc, tu n'as pas le droit d'adresser une demande à un mort. La deuxième condition, c'est qu'il soit présent. Donc, tu n'as pas le droit d'adresser une demande à un absent. Et la troisième condition, c'est qu'il soit capable d'accomplir ce que tu lui demandes. Ceci sont les trois conditions qu'il est indispensable de respecter pour adresser une demande à une créature. Il faut qu'il soit vivant, qu'il soit présent et qu'il soit capable d'accomplir la chose que tu lui demandes. Ensuite, concernant l'invocation, il y a d'autres questions qu'il est important d'aborder ici. Premièrement, on a vu dans le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à celui qui l'invoque l'exaucement de son invocation. Mais quelles sont les conditions pour que tes invocations soient exaucées? Premièrement, parmi les conditions pour que ton invocation soit exaucée, il faut qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu sois sincère dans ton invocation. La deuxième condition est que tu aies la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ton invocation. Si tu as un doute, si tu invoques pour essayer, alors n'attends pas de réponse à ton invocation. Mais tu dois être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'exaucer. Tu dois avoir la certitude de cela. La troisième condition est que ton invocation ne comporte pas de péché ou que tu invoques pour la rupture d'un lien de parenté ou autre chose interdite. Le fait de demander, par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve quelqu'un par un péché ou le fait de demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de toi un de tes proches parents. Ceci n'est pas permis. La quatrième condition d'exaucement de l'invocation est de ne pas s'empresser. C'est-à-dire que tu invoques et tu patientes. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre vous est exaucé tant qu'il ne s'empresse pas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment se manifeste cet empressement. Et vous allez voir que malheureusement, nombre de gens s'empressent à ce sujet. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous est exaucé tant qu'il ne s'empresse pas, en disant, j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc lorsqu'une personne dit cette parole, elle se prive elle-même de l'exaucement de son invocation. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dois de patienter et avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'exaucer. La cinquième condition, c'est de ne pas transgresser dans l'invocation. En demandant une chose impossible, par exemple, le fait de demander d'être un prophète ou le fait d'avoir au paradis une place que nul autre que toi aura. Tout ceci fait partie de la transgression dans l'invocation. Et si tu adresses une telle demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute qu'il ne t'exaucera pas. Enfin, la sixième condition, c'est que tu te nourrisses, t'abreuves, te vêtisses que du licite. C'est-à-dire que ta boisson, ta nourriture, tes vêtements, ton logement ne soient obtenus que de manière licite. Car ceci fait partie des causes de l'exaucement de l'invocation. Comme il est venu dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit la situation d'un homme en voyage qui a réuni nombreuses causes d'exaucement de l'invocation. Il est en voyage, il a de la poussière sur le visage, il lève ses mains et il dit « Ya Rab, Ya Rab » mais sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites et il a été nourri de l'illicite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors comment pourrait-il être exaucé ?» Ceci sont donc les six conditions pour que ton invocation soit exaucée. Une fois que cela est su, alors comment Allah subhanahu wa ta'ala exauce ton invocation? En effet, le musulman, il doit savoir que lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce de différentes manières. qui sont au nombre de trois. La première manière, c'est qu'il t'accorde ici-bas la chose que tu as demandée. Par exemple, tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite la mémorisation du Coran et tu es facilité dans cela. Ceci est l'exaucement de ton invocation telle que tu l'as demandée. La deuxième manière, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala conserve pour toi cette invocation et t'en fasse profiter dans l'au-delà. Et la troisième manière, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve d'un mal à hauteur de l'invocation que tu as faite. Ceci nous confirme l'importance de ne pas se précipiter et de patienter lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, celui qui dit « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé », il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé. Peut-être qu'il va le préserver d'un mal immense qui allait l'atteindre. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a conservé cette invocation pour un moment où elle lui sera plus qu'utile au jour de la résurrection. C'est pour cela que le musulman doit patienter. Enfin, pour terminer sur l'invocation, nous allons mentionner quelques bienséances relatives à l'invocation, c'est-à-dire des choses qu'il convient de faire lorsque tu invoques. Premièrement, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois t'humilier devant lui, te rendre compte de ta faiblesse et qu'il est celui qui est capable de toutes choses, qu'il n'a pas besoin de toi, mais que c'est toi qui as besoin de lui. Tu dois donc t'humilier et t'avilir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienséances également, il y a le fait de lever les mains lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Également, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, il est recommandé de t'orienter vers la Qibla. Et enfin, parmi les bienséances relatives à l'invocation, il y a le fait de choisir un moment propice à l'exaucement des invocations. Et parmi ces temps, il y a, entre l'adhan, entre l'appel à la prière, l'iqama. Il y a également, lorsque tu es en voyage, ou lors de la tombée de la pluie, ou lors de la prosternation. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. Et également, durant le dernier tiers de la nuit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas et qu'il dit « Qui m'invoque, je l'exaucerai. Qui me demande, je lui accorderai. » Ou encore, durant la dernière heure du jour du vendredi. Donc, ceux-ci sont des moments propices à l'invocation durant lequel le musulman, il doit multiplier les invocations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala, il a évoqué deux adorations immenses qui sont al-khawf wa al-raja, la peur et l'espoir. Et ces deux adorations, elles sont liées. En effet, il est indispensable pour les serviteurs de réunir entre la peur et l'espoir dans ce cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains gens de science ont même dit que la peur et l'espoir sont pour le serviteur comme les deux ailes d'un oiseau. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, selon le sens rapproché de sa parole, le serviteur espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de lui son œuvre, le récompense pour cela et lui fasse miséricorde à l'avenir. Et il a peur qu'il n'accepte pas son œuvre et qu'il soit privé de sa récompense. Il espère d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte son œuvre et le récompense pour celle-ci, mais en même temps il a peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejette cette œuvre et le prive de sa récompense. Le cheikh il a donc dit, rahimahullah ta'ala, « وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » Et n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc ce verset, il nous prouve que la peur est une adoration. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'avoir peur d'autre que lui. Et il nous a ordonné d'avoir peur de lui. Ceci veut donc dire que la peur est une adoration. Car comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne qu'une chose qu'il aime. Et également, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « kuntum mu'minin » si vous êtes croyants. C'est-à-dire que celui qui ne voue pas exclusivement la peur à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui la voue à autre que lui, alors sa foi est défaillante. Et la peur est de différentes catégories. Premièrement, il y a la peur d'adoration. Celle-ci ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la voie autre que lui est de l'association majeure. Comme le fait d'avoir peur qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Par exemple, qu'une personne ait peur que quelqu'un le rende malade, ou que quelqu'un lui retire son âme, ou que quelqu'un le prive d'avoir des enfants. Donc tout ceci sont des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Et nombre de personnes, parmi les adorateurs de tombes, ou autres ignorants, vouent cette peur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui ont peur des habitants des tombeaux, ou ceux qui ont peur des sorciers. Ils ont peur qu'ils leur nuisent, même en leur absence. Alors ceux-ci, qu'est-ce qu'ils font à cause de cette peur? Ils vouent des œuvres à ceux dont ils ont peur. Par exemple, ceux qui ont peur des shayatines. Lorsqu'ils habitent dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sacrifier, par exemple, une poule ou un autre animal sur le pas de la porte afin de se prémunir du mal des shayatines. Et ceci est du shirk akbar. C'est du polythéisme majeur. Cette peur, elle est interdite. Elle a été vouée à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle l'a conduit, en plus de cela, à accomplir des œuvres de polythéisme. Donc, le musulman, il ne doit avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit pas vouer cette adoration à autre que lui, comme on l'a dit, comme ceux qui ont peur des habitants des tombes, qui ont peur des djinns, qui ont peur des shayatines, ou qui ont peur des sorciers, qui, à cause de cela, se rapprochent d'eux par différentes sortes d'adorations afin de se prévenir de leurs maux et par peur de cela. Et ceci est du polythéisme majeur. La deuxième sorte de peur, c'est la peur naturelle. Et c'est le fait que tu aies peur d'une chose apparente qui peut réellement te nuire, comme le fait qu'une personne ait peur d'un serpent, ait peur d'un scorpion, ou autre chose qui est nuisible. Ceci sont des choses apparentes et connues. Le fait d'en avoir peur n'est pas du polythéisme. Donc, étant donné la nuisance apparente de ces choses, l'homme va chercher à s'en prémunir. Et il est donc naturel qu'il en ait peur, car ceci sont des choses qui sont perceptibles. Leur nuisance est connue. Si tu en as peur, tu n'es pas tombé dans le polythéisme, car cette peur est naturelle. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Moussa alayhi salam, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Et il en est sorti, c'est-à-dire de la ville, apeuré, regardant autour de lui. Il avait peur de ses ennemis. Il avait peur que les gens de Pharaon le rattrapent et le tue, car il avait tué l'un d'entre eux. Donc il s'est enfui vers Médiane. Et il regardait autour de lui et il était apeuré. Il avait peur qu'il le rattrape. Et ceci donc est une peur naturelle. Le troisième type de peur, c'est la peur interdite. C'est le fait que l'homme délaisse ce qui est obligatoire pour lui, comme le fait d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, sans excuse valable, si ce n'est la peur des gens. Et ceci est interdit. Il n'est pas permis pour le musulman de délaisser ce qui lui est obligatoire par peur des gens. Comme le fait, par exemple, qu'une personne, elle délaisse une prière en son temps par peur de son patron. Ou qu'une personne, elle délaisse le fait de laisser pousser sa barbe par peur du regard des gens. Ceci est une peur qui est interdite. L'auteur, rahimahullah, a dit, quant à la peur d'une créature, ce qui est visé par celle-ci, c'est la peur qui pousse l'homme à délaisser ce qu'Allah lui a prescrit ou à faire ce qu'Allah lui a interdit par peur d'une créature. Donc lorsqu'une personne accomplit une chose qu'Allah a interdite ou délaisse une chose qu'Allah a rendue obligatoire par peur des gens, alors cette peur, le sentiment en lui-même, sans parler du délaissement de l'obligation ou du fait de commettre l'interdit, en elle-même, cette peur, elle est interdite. Et il n'est pas permis à l'homme d'avoir peur d'une créature et de délaisser en conséquence de cela une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendue obligatoire. Mais la peur louable, c'est celle qui te pousse à accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit et à délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Ceci est la peur louable et c'est la peur véridique et c'est celle-ci qui est demandée. C'est-à-dire que tu aies peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette peur, elle te pousse à accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit et à délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Voilà donc en ce qui concerne cette adoration qui est al-khawf, la peur. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit wa dalilu ar-raja, et la preuve concernant l'espoir, c'est-à-dire la preuve que l'espoir est une adoration. Qawluhu ta'ala, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'auteur, rahimahullah, a mentionné pour nous prouver que l'espoir est une adoration. En effet, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait des éloges de ceux qui espèrent le rencontrer et qui accomplissent suite à cet espoir des œuvres pieuses et qui ne donnent aucun associé dans l'adoration de leur Seigneur. L'espoir donc, c'est une adoration et elle consiste à désirer l'obtention de la chose espérée. Et elle se divise également en deux catégories. L'espoir naturel, c'est le fait que tu espères d'une personne qu'elle fasse une chose qu'elle est capable d'accomplir. Par exemple, que tu espères de ton enfant qu'elle accomplisse son apprentissage du Coran. Il est capable d'accomplir cela. Tu espères donc de lui qu'il accomplisse cela, et ceci est un espoir naturel, il n'y a pas de mal en cela. Le deuxième type d'espoir, c'est l'espoir d'adoration. Et c'est le fait d'espérer une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, comme la guérison du maladie, ou encore l'entrée au paradis, ou le fait d'être préservé du feu de l'enfer. Donc cette chose-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de les accomplir. Donc tu ne dois les espérer que d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne les espérer de nul autre que lui. Et cet espoir, il est accompagné d'humiliation et de soumission et il est donc réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le vouer à autre que lui est une forme de polythéisme majeur, comme le font ceux qui se rendent auprès des tombes, les invoquant et espérant des morts qui sont sous la terre, qu'il leur accorde des enfants, ou qu'il leur facilite le mariage, ou qu'il les guérisse d'une maladie. Tout ceci est du polythéisme majeur. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit que l'espoir est de trois sortes. Deux d'entre elles sont louables, et la troisième est blâmable. Les deux premières, c'est le fait que l'homme œuvre dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est donc un espoir louable. Il accomplit des œuvres pieuses pour Allah subhanahu wa ta'ala et il espère donc être récompensé pour cela. Le deuxième type d'espoir qui est louable, c'est l'espoir d'un homme qui a commis des péchés puis qui s'est repenti de ses péchés. Et il espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et efface ses péchés de par sa bienfaisance. Ceci est donc un espoir qui est louable. Et le troisième, qui est blâmable, c'est l'espoir d'un homme négligent, qui persiste dans l'accomplissement des péchés et qui malgré ça espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sans œuvrer en fonction de cet espoir. Alors celui-ci, il est en réalité leurré et il est tombé dans un espoir qui est mensonger. Car il a espéré le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas œuvré en fonction de cela. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a ordonné à celui qui espère le rencontrer? Il a dit, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ. Quiconque espère rencontrer son Seigneur. C'est-à-dire qu'il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il espère voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection, alors qu'il accomplisse des œuvres pieuses. Des œuvres pieuses qui vont le mener à l'obtention de ce qu'il espère. L'entrée au paradis, le fait d'être préservé du feu et de voir Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, alors qu'il accomplisse une œuvre pieuse. Ceci nous prouve que l'espoir en lui-même, il n'est pas suffisant. Mais il est indispensable que cet espoir il soit accompagné d'œuvres pieuses. Si tu espères rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et entrer au paradis, mais que tu n'œuvres pas en fonction de cela, alors tu as délaissé les causes. Mais l'espoir louable, comme on l'a dit, c'est que tu espères la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu espères sa récompense, que tu espères entrer au paradis et que tu accomplisses pour cela des œuvres pieuses. Et ceci est l'espoir qui est louable et c'est ce qui est demandé. Quant à l'œuvre pieuse, comme on l'a déjà dit dans des cours précédents, c'est celle qui réunit deux conditions. La première est l'ikhlas, le fait qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ton œuvre soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est al-mutaba'a lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ton œuvre, elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'œuvre ne peut être pieuse si ce n'est en remplissant ces deux conditions. Quant à l'œuvre qui n'est pas vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est une œuvre corrompue. C'est une œuvre dans laquelle il y a eu du shirk. Celle qui comporte une quelconque forme de polythéisme, alors elle est rejetée à son auteur et elle n'est pas acceptée. De la même manière, une œuvre qui contient une quelconque innovation, elle est rejetée et elle n'est pas acceptée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Aïcha radiallahu ta'ala anha, quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors son œuvre sera rejetée. Donc le musulman qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qui espère rentrer au paradis et qui espère être préservé du feu, il se doit d'accomplir des œuvres pieuses, des œuvres qu'il voue exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé, et qu'il accomplit conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc pour ce qui concerne ces trois adorations qui sont l'invocation, la peur et l'espoir. Et nous verrons la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, d'autres adorations que l'auteur rahimahullah a mentionné. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا.